Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 106.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je vous enregistre cet épisode en plein week-end. C'est spécial. C'est pas que j'ai procrastiné sur cet épisode, j'ai l'impression que je voulais vraiment réfléchir à ce que je voulais vous dire, vraiment structurer ce que j'allais vous dire aussi. Puis, ça a donné que, bon ben, voilà, hein, un épisode de dimanche, mon conjoint a été assez gentil de prendre ma fille, l'amener jouer dans un café. On est super chanceux ici dans le quartier, il y a tellement de cafés qui sont... kid-friendly, hein, qui permettent aux parents de prendre un petit break dans des cafés avec des jouets pour les enfants, avec des tapis, avec des livres à colorier. Fait que, tu sais, c'est le fun pour tout le monde parce qu'à ce moment-là, ben, on peut siroter notre café, lire notre article du matin. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu hors norme dans ma vie de travailler, où j'essaye le plus possible de ne pas travailler le week-end, mais des fois, il y a des pièces de contenu comme ça qui mûrissent et qui sortent au moment où ça doit sortir. Puis, c'est pas nécessairement relié à l'épisode d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est intéressant que je vous en parle. Dans mon cas, à moi, quand il y a une pièce de contenu qui a besoin de sortir, mais qui avait peut-être des blocages au niveau de la communication autour, ça me génère la même sensation que de l'anxiété. J'ai l'impression que mon cerveau est embrouillé jusqu'à ce que cette pièce de contenu-là puisse finalement sortir de mon système, et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait une tergiversation en introduction, hein, j'ai fait un petit détour, je pense, pour me réchauffer aussi pour le sujet, et la thématique que je voulais adresser avec vous aujourd'hui, c'est justement toute cette thématique autour de l'autorité. Et c'est super intéressant à réfléchir, et encore une fois, je vous le dis, il y avait peut-être quelque chose en moi qui m'empêchait d'enregistrer cet épisode parce que pendant longtemps, j'ai eu peur du mot « autorité ». En fait, c'est pas que j'ai eu peur, c'est que j'ai eu peur de le présenter à toi, mon auditrice, le reste de mon audience, mon public, parce que j'ai cette croyance que c'est un mot qui a beaucoup de mauvaise presse ou de mauvaises significations qui sont associées à ça. Et je dis ça parce que quand j'ai travaillé, là ça va bientôt faire 2 ans, en tout cas, quand j'avais mis sur pause mes consultations en individuel, en mes programmes en one-on-one, et que j'avais commencé à travailler sur Money Brand et ce que je voulais vraiment créer avec Money Brand, au cœur de la transformation que j'offre, il y a autorité de marque. Et quand j'écrivais mes frameworks, quand je faisais ma modélisation de mon programme, quand je regardais les angles d'approche, puis que j'arrivais à cette transformation qui est autorité de marque, je m'arrêtais au mot autorité, puis j'étais comme, je ne peux pas utiliser ça dans le vocabulaire de ma transformation parce que, puis là, c'est pas pour insulter personne, mais tu sais, peut-être que j'avais pas 100% confiance que j'allais être bien comprise avec le mot autorité, surtout en travaillant avec des femmes, surtout en travaillant avec des personnes qui sont très performantes, hein, genre des high achievers, beaucoup de bonnes élèves aussi, des personnes qui, souvent, toute leur vie, ont été très aptes à suivre l'autorité et, à quelque part, l'entrepreneuriat devient une escape, escapade, un échappatoire de cette pression autoritaire qu'elles auraient pu avoir vécue dans leur vie. Ça, c'est une fonction, une raison pour laquelle je trouvais que c'était sensible d'utiliser le terme autorité de marque. L'autre raison, c'est que, encore une fois, parce que je travaille avec des femmes, ça prend un certain moment, ça prend une certaine évolution et transformation interne avant d'être capable de se percevoir soi-même comme une autorité. Puis ça, je pense que c'est la chose qui est probablement la plus difficile et qui représente un des plus grands changements de mindset quand on est une femme, de accepter ce terme-là pour se décrire soi-même. Puis c'est la même chose avec des termes comme leadership ou leader ou expert, même experte. Elles portent, tu sais, ces mots-là portent en eux un pouvoir, une responsabilité, une vision ou un regard qu'on se porte à soi qui est bien souvent inconfortable. Inconfortable parce que on nous a bien souvent enlevé cette croyance en notre propre pouvoir, autorité, leadership, qui finit par être vu comme négatif. Et donc, la raison pour laquelle je pense que j'hésitais encore à enregistrer cet épisode, c'était que cet épisode allait servir pour moi à articuler comment je vois le terme autorité dans le contexte de quelqu'un qui se lance en entrepreneuriat ou qui manœuvre une entreprise, hein. C'est pas nécessairement juste des nouveaux, là, parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui, encore en date d'aujourd'hui, ont besoin d'affirmer davantage ou d'assumer leur autorité dans leur propre prise de décision et leur propre façon de gérer leur business. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que la raison pourquoi, encore une fois, on a beaucoup peur du mot autorité, c'est d'un côté, on se rebelle contre cette autorité-là, mais d'un autre côté, on ne veut pas s'associer à un terme qui, dans notre psyché, peut vouloir venir chercher toute la dimension de l'ostracisation, l'oppression, la force, la discipline. Hein, ça, c'est un autre mot que moi, j'ai jamais eu aucun problème avec le fait de me considérer disciplinée puis d'utiliser la discipline pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Mais, tu sais, tout ce champ lexical-là du contrôle, à quelque part, a quelque chose de très mal vu, du moins dans les cercles dans lesquels j'évolue. Alors, comme personne socialisée comme femme, hein, si vous m'écoutez, ça se peut que vous soyez socialisée comme femme, et si vous m'écoutez puis vous êtes un homme, il n'y a aucun problème non plus, c'est juste que peut-être votre relation au pouvoir ou au terme autorité est différente. Cette idée genre d'autorité, ben, il y a un pouvoir oppressif, c'est celui qui dit ce qui doit être fait et comment ça doit être fait. Puis justement, ça peut susciter cette révolte qui a été répandue par la flamme entrepreneuriale. Une chose que je trouvais intéressante, par contre, en faisant mes recherches pour cet épisode, c'est que, on va faire un peu de linguistique, un peu de sémantique aussi, autorité, c'est un terme qui provient du nom latin « auctoritas ». Puis, historiquement, ce qui est intéressant, l'auctoritas romaine, c'était le pouvoir, à quelque part, du Sénat. Hein? Puis le Sénat, dans les temps romains, il n'y avait pas de pouvoir décisionnaire ni exécutif. Contrairement à, puis là ici, genre, je suis en train de regarder ce que j'avais dans mes notes, hein, la potestas, hein, qui imposait la force au peuple. T'sais, peut-être qu'on peut imaginer la police du temps à ce moment-là. Donc, l'autocritas, c'était la qualité et la légitimité des anciens, qui, eux, l'avaient obtenu par héritage et transmission de la part de ceux qui avaient posé des fondations pour tout ce qui allait venir. Hein. Donc, ceux qui avaient l'autocritas, c'était ceux qui maintenaient, ceux qui étaient responsables du passé, de la lignée, de la fondation sacrée, dans le fond, de Rome. Fait que c'est intéressant ici juste de réfléchir à ça et de constater que autorité n'est pas synonyme de pouvoir. Ça peut même exister sans l'imposition du pouvoir. Puis, ça peut même être, et c'est là que ça devient intéressant pour ce que nous, on va faire en tant que femme ou entrepreneur du nouveau paradigme, c'est que l'autorité, l'autocritas, peut incarner un contre-pouvoir. Symboliquement, parce que justement, c'est le gardien de la fondation. L'autre chose qui est intéressant aussi, donc, je vais revenir là-dessus, autorité et autonomie vont de pair. Parce que l'autorité en soi, elle n'est pas liée à l'imposition du pouvoir, elle n'a donc pas de responsabilité face à maintenir l'ordre, elle est simplement là pour venir chercher la consécration de ce qui est considéré être comme juste ou vrai. Bon, on va ressortir un peu de la philosophie ou des termes un peu plus historiques comme ça. En anglais, authority, il y a le mot author dedans, hein, qui est auteur, la source. Authority, c'est de devenir aussi l'auteur de quelque chose, tu sais, d'action, de décision ou d'un projet, et de prendre sur soi cette qualité créative et générative des décisions. Fait qu'il y a quelque chose de super intéressant dans l'idée d'entendre dans autorité le mot auteur, parce que ça lui enlève justement, tu sais, la raison pourquoi je vous raconte tout ça, c'est qu'on veut enlever la charge oppressive au mot pour pouvoir jouer avec et voir comment on peut se l'approprier par la suite. Donc, autorité et autonomie vont de pair, puis on va développer un peu comment ça s'applique à notre rôle d'entrepreneur aussi, qui, à quelque part, est un auteur de un différent contexte professionnel, de différentes offres, de différentes communautés aussi, hein, qui est une autorité dans son domaine. C'est comme ça qu'on l'utilise en français bien souvent, pour dire, ben c'est une personne qui a cette voix-là, qui a cette position-là, qui est respectable, qu'on devrait écouter et qui a une sagesse qui ne peut pas être ignorée. Donc, le problème, c'est que quand on n'adhère pas ou qu'on n'assume pas cette autorité, puis c'est pour ça qu'on en revient un peu à autorité de marque, c'est que bien souvent, on va créer des business, on va créer des calendriers éditoriaux, des positionnements, etc., qui sont basés sur des actions, mais qui ne réfléchissent jamais nécessairement à ce point de vue d'autorité qu'on essaye de venir chercher et qui va ensuite permettre à tout ce qu'on va créer par la suite d'avoir cette aura de consécration, cette aura de crédibilité, cette notoriété aussi qui vient avec le « authorship ». Alors, quand on est socialisé comme femme, bien souvent, on nous a enlevé ou on a travesti le terme autorité pour que ça sonne comme quelque chose, hein, on est des marâtres, on essaye genre de se mettre au-dessus des autres, on essaye de perpétuer un système de pouvoir dans lequel des gens doivent être assimilés ou des gens doivent être supplantés pour que nous, on puisse s'élever. Donc, bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préférer, parce qu'on a été socialisés comme femmes qui devons justement être responsables de la cohésion des groupes et aussi de la charge émotionnelle de ceux qui nous entourent, etc., on décide ou on a été conditionné à laisser de côté ou du moins à donner, je ne sais pas trop comment dire, à abandonner notre autorité aux mains des autres, parce que souvent, on va être prise dans trois grandes conditions ou grandes réactions. Et ces grandes réactions-là, ou du moins, on est prise dans dans trois processus, mettons, qui est la recherche de validation, hein, en numéro un, la propension à vouloir plaire à tous, hein, en anglais on appelle ça « people pleasing », et cette habitude, ou du moins, je dirais, incitatif à externaliser le pouvoir aux autres, à ceux qui ont davantage d'autorité ou qui sont davantage des experts ou qui ont davantage déjà le pouvoir dans certaines circonstances. Alors, on va parler de chacune de ces choses. Avant qu'on entre là-dedans, je tiens à dire que j'ai été fortement inspirée à ces trois fonctions-là, hein, à en amener à ces trois fonctions-là par un contenu qui était en fait genre une série de masterclass qui avait été donnée par Cara Lowenthal, qui est une coach féministe américaine. Je fais sa certification en coaching féministe en début 2023, donc c'est une de mes mentors qui est pour le moment, je travaille pas directement avec elle, mais ça va bientôt avoir lieu. Et donc, je voulais aussi souligner, dans le fond, l'apport que écouter ces masterclass m'a aidé pour transmettre ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, on perd notre autorité quand on est prise dans un de ces trois mécanismes-là. On va commencer avec ce besoin de validation, hein, la recherche de validation constante. Puis là, si je vous dis ça, c'est sûr que vous vous dites, ben, je suis pas mal sûre que vous êtes capable de voir dans votre vie à quel moment ou dans quelles circonstances vous êtes plus prône à ça. Hein, quand on est socialisé comme femme, bien entendu, cette validation externe, c'est presque une drogue à laquelle on est, une drogue à laquelle on est dépendante, parce que c'est cette validation externe qui continue à nous donner les petits shots de dopamine qu'on a besoin pour continuer à avancer. Puis là, vous connaissez, hein, je parle beaucoup du syndrome de la bonne élève, mais aussi de cette idée de toujours vouloir savoir comment est-ce que tu peux confirmer que ce que j'ai fait, dit ou pensé est la bonne chose, parce que j'ai besoin de me faire valider par l'extérieur, sans quoi je vais errer dans cette insécurité constante par rapport à mes actions. Fait que, tu sais, quand on parle de validation externe, on parle toujours de cette idée de s'assurer qu'on est correct, hein, qu'on a bien fait les choses, qu'on est assez bonne, qu'on a fait assez de travail, qu'on est satisfaisante. Donc, on cherche là à se faire rassurer à propos de quelque chose à propos de nous. Hein. On est drôle, on est belle, on est intelligente, on a besoin de constamment avoir de la validation externe pour se conforter dans cette idée-là, parce que d'un point de vue d'ancrage de ses pensées, c'est pas encore intégré. On a besoin que les autres nous le disent et nous le répètent, parce que dès que quelqu'un arrête de nous dire ça, soudainement, ben, c'est comme, est-ce que je suis vraiment intelligente? Il y a quelqu'un qui me l'a dit hier, mais peut-être que ça comptait pas. En tout cas, bref, vous savez de quoi je parle. La validation externe, c'est aussi rechercher que quelqu'un nous affirme dans nos opinions, dans notre perception de la réalité, qu'on a raison dans certaines circonstances. Puis là, on parle de choses aussi larges que dire, est-ce que j'avais raison de être fâchée à mon mari quand il a dit ça, j'ai besoin que tu m'affirmes dans mon besoin de... J'ai besoin que tu m'affirmes dans mon besoin de me dire ce que je devrais manger ce midi pour être correcte avec ma conscience. Est-ce que tu peux lire ce courriel que j'ai envoyé? Est-ce que j'étais trop bête ou est-ce que j'étais correcte? Hein? Ce genre de validation externe, ça fait aussi partie de cette dimension-là. C'est sûr que c'est pas de notre faute nécessairement, hein, surtout quand on a grandi dans la société dans laquelle on vit, de chercher ou d'être dépendante de cette validation externe, parce que on a été socialisé à croire que notre valeur, que c'est notre worthiness, comme ils disent en anglais, est déterminée par ce que les autres vont penser de nous. On nous apprend pas qu'on est assez en soi, hein, puis hier même je faisais le commentaire à mon mari, je voulais me faire un masque, puis je lisais, tu sais, un masque dans une routine de self-care, puis je lisais à propos de cette routine, puis c'était comme comment corriger les pores de ta peau et comment s'assurer que, tu sais, genre, tu vas avoir l'air jeune à jamais. Puis on a intégré ce genre de routine de correction de soi parce que les autres doivent nous valider à travers notre valeur, comme même faisant partie de notre routine de self-care. Fait que même dans notre self-care, on est imprégné par cette notion de pas être assez, hein. Pas avoir l'air assez jeune, pas avoir l'air assez reposé, pas être assez intelligente pour faire X, Y ou whatever. Quand on reçoit de la validation externe, naturellement, on a parlé, hein, ça fait un petit peu de dopamine, on va faire réduire le stress qu'on ressent dans l'incertitude. Puis c'est comme ça qu'on devient dépendante de ce cycle-là. C'est parce que à force de toujours être en état de danger, entre guillemets, à savoir comme est-ce que c'est vrai que les gens m'aiment? Est-ce que c'est vrai que je suis une assez bonne partenaire? Est-ce que c'est vrai que je suis une assez bonne collègue? Il faut que quelqu'un vienne me rassurer autour de ça. Bien, dès qu'on reçoit cette réassurance, puis ça peut avoir lieu au niveau des évaluations qu'on fait de nous, mais aussi des fois, c'est vraiment juste de dire ben, « Est-ce que j'ai vendu 5 places parce que ça va confirmer que je fais du bon travail? 5 places dans mon programme ou quelque chose comme ça? » Ben là, on a cette réponse de dopamine qui ne dure pas très longtemps, on s'entend, mais qui nous permet ensuite de faire réduire le stress ou la menace qu'on ressent au niveau de notre système nerveux quand on est dans cette période de doute-là. C'est ça. Fait que le problème, c'est que on a aussi été socialisé qu'on ne peut pas prendre nos propres décisions et qu'on a besoin de s'assurer que quelqu'un d'autre qui a l'autorité va nous dire ce qui est de mieux pour nous ou va nous confirmer dans ce qu'on aurait probablement déjà pensé par nous-mêmes, mais qu'on a besoin d'avoir cette validation pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Mais comme on sait, hein, la validation, ça ne dure jamais très longtemps. Et c'est pour ça que beaucoup du travail qu'on doit faire, pas simplement en coaching pur et dur, mais selon moi, dans tout le travail qu'on fait au niveau de l'entrepreneuriat, puis du marketing, puis de la visibilité, c'est qu'on doit créer de la validation interne, hein, qu'on doit créer de la valeur intrinsèque, de comprendre, de bien s'ancrer et d'assumer cette valeur intrinsèque-là. Et personnellement, dans les programmes que moi, je roule, le travail qu'on fait autour de l'offre de service, c'est intimement lié à cette valeur intrinsèque-là. C'est intimement lié à comment est-ce que nous, on peut percevoir dans ce qu'on est en train de créer qu'il y a une expertise, une autorité et un pouvoir qui va bien au-delà que ce que le monde externe pourrait venir nous donner comme type de validation. Donc, c'était intéressant parce que dans une des masterclass de Carol Lowenthal, quand elle parlait de validation externe, elle avait suggéré aussi, puis là je vous le donne parce que je trouve que c'est intéressant de l'avoir dans le fond de sa poche hein, quand même, quand on a besoin de prendre une décision et on veut ne pas tomber dans ce pattern-là, hein, de dire comme « Est-ce que ma mère m'a dit que c'était correct que je fasse ça? Est-ce que ma coach me donne le feu rouge? Est-ce qu'elle me donne la permission de le faire? Ben, tu sais, c'est toujours de savoir ben, comment, quand je prends mes décisions, c'est quoi les valeurs sur lesquelles je m'oriente. Puis ces valeurs, ça peut être aussi des valeurs par rapport à comment on va se percevoir dans cette prise de décision. Hein. Par exemple, je vais prendre une décision et je ne vais pas douter de moi ou tu sais, je vais respecter ma décision, peu importe ce qu'elle est. Tu sais, ça peut être une valeur à travers laquelle on peut passer. Donc, orienter nos décisions par rapport à nos valeurs et ensuite aligner nos actions par rapport à ces valeurs-là aussi. Fait que ça, c'était juste quelque chose que je voulais vous dire par rapport à la prise de décision. Maintenant, deuxième fonction ou deuxième espace dans lequel on est puis dans lequel notre autorité bien souvent est laissée aux autres, c'est cette propension qu'on a à vouloir plaire à tous. Hein. En anglais, on appelle ça le « people pleasing », puis c'est quelque chose qui est fondamentalement lié à une réaction traumatique. Hein. Là, je ne les ai pas devant moi, comment je les avais traduits, mais on appelle, par exemple, il y a 4 grandes réactions traumatiques en ce moment qui sont communiquées ou du moins explorées dans tout ce qui est la psychologie, puis l'anthropologie, puis la sociologie. C'est que on a 4 réponses traumatiques qui sont fight, flight, freeze, fond ou appease, ça dépend pour le quatrième. Mais tu sais, on connaît fight or flight, hein, genre comme... on combat ou on se sauve. Là, j'ai pas les termes en français pour vous les traduire, là, parce que j'étudie beaucoup ces concepts-là en anglais. Mais on a 2 autres réactions traumatiques qui est comme fight, flight, freeze, hein, on paralyse, appease ou fawn. Et ça, appease, c'est on va rentrer bien souvent dans le people-pleasing, dans vouloir minimiser le conflit en... faisant descendre la tension, en se fondant dans le conflit et en essayant d'apaiser ce que les gens pourraient ressentir. La problématique, par contre, de ça, c'est qu'en faisant ça, on manipule à quelque part l'environnement de sorte à ce qu'on soit considéré comme étant plus acceptable et on fait fi, on élimine tout ce qui était conflictuel de notre côté. Donc, on vit dans une espèce de double, on vit une double vie, parce que d'un côté, ben, on est ces personnes qui sont comme, oui, je suis tout le temps vraiment très, tu sais, je pense tout le temps à comment les autres se sentent, etc., mais parallèlement, on pense quelque chose de complètement différent, on se sent super activé, on est super triggered, et on continue à avoir ce type de réaction-là, simplement parce qu'on veut pas on veut pas réactiver le conflit, mais à cause de ça, ben on reste dans cette réaction traumatique. Alors, c'est bien entendu lié à cette socialisation qu'on a de penser qu'en tant que femme, on doit être de service, hein? On doit servir les autres. Et ça, c'est une chose qui vient bien souvent en entrepreneuriat, c'est que... tu sais, on parle même de l'offre de service, puis une des grosses choses qu'on doit venir balancer hein, dans le travail qu'on fait dans Money Brand, par exemple, c'est que oui, il faut être de service, mais pas que. La personne qu'on doit servir avant tout, c'est nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on va créer une entreprise, une offre et des systèmes qui vont nous supporter dans ce qui va nous servir nous avant tout, mais qui... parallèlement et de service pour la société. Parce que ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui ne vivent des vies que dans le service de l'autre, des entreprises dans le service de l'autre, et à travers ça, ben, vivent à travers des burn-out, de la désillusion, et même de l'auto-sabotage, parce que, à quelque part, elles sont en train de travailler contre leurs propres besoins, leurs propres désirs. Fait que cette notion-là de people-pleasing, de vouloir plaire à tous, c'est hyper insidieux parce qu'on a l'air de faire la bonne chose selon ce que nous, on pourrait croire de nous-mêmes et le rôle qu'on voudrait s'assigner, mais parallèlement, on est non seulement en train de présenter un mensonge aux autres, hein, parce que c'est pas vrai que tout ce qu'on fait, on le fait de bon cœur ou peu importe, on vit une mascarade, mais aussi on s'empêche de... asseoir notre autorité parce que cette autorité-là pourrait impliquer de changer certains modes de faire, de changer certaines audiences ou certains publics qui impliqueraient, encore une fois, de ne pas pouvoir plaire à tous. Et ça, c'est extrêmement activateur pour beaucoup, beaucoup de personnes avec qui je travaille qui ont été socialisées comme femmes parce que c'est comme, qu'est-ce qui arrive si telle personne me demande ça puis je peux pas le servir? Bon, à réfléchir. Et la troisième dimension, dans le fond, c'est tout ce qui est cette externalisation du pouvoir. Kara Lowenthal, dans sa masterclass, parlait de « power outsourcing », donc externaliser le pouvoir aux autres. Et je trouvais intéressant comment elle définissait le terme « pouvoir », parce que ça se distinguait un peu de ce qu'il y avait dans le dictionnaire, mais c'est cette habilité à influencer sa propre vie et ses propres résultats. Et quand on va externaliser le pouvoir, si on le prend selon cette définition-là, c'est qu'on va aller donner aux autres la puissance, le contrôle de déterminer l'influence, de prendre l'influence sur notre vie. On leur donne le rôle et le contrôle de déterminer comment on va sentir, à quel moment, tu sais, comment on va réussir, qu'est-ce qu'on devrait faire. On est en train de laisser aller le pouvoir et l'autorité qu'on pourrait avoir sur notre propre vie aux autres. Et là, c'est super insidieux, puis peut-être que pour vous, c'est comme « Ah, mais non, mais moi, je fais pas ça, là. Genre, je suis indépendante et autonome de ma propre vie. » Et c'est là que ça devient intéressant à réfléchir, parce que des fois, on le fait d'une façon tellement insidieuse, comme par exemple, on laisse le pouvoir, par exemple, à quelqu'un qu'on admire, hein, une autorité dans son domaine, une coach, je sais pas, nos parents, ou même des fois, c'est des anciennes versions de nous-mêmes, de déterminer comment on va agir et sentir. On va se laisser contrôler par ces autres personnes, notamment sur se juger soi-même, juger nos actions, déterminer si une décision était bonne ou non, et se dire que, par exemple, elles sont responsables de notre bonheur en date d'aujourd'hui, hein? Parce que j'ai pris cette décision dans le passé, aujourd'hui, je peux pas avoir une business qui fonctionne parce que ma première business a foiré, puis voilà, tu sais, comme je suis un échec. Hein? Moi, entrepreneur, je suis un échec parce que dans le passé, j'ai fait faillite avec une de mes entreprises. Et donc là, on est en train de laisser à cette expérience passée le pouvoir de contrôler notre présent. De la même façon, je suis une... Je sais pas moi, ma coach m'a dit de faire telle chose et ça a pas marché. J'ai pas eu les ventes que je m'attendais à avoir. J'ai pas eu le retour sur investissement que je m'attendais à avoir. On est en train de donner le pouvoir à un programme ou à une personne ou à une autorité de déterminer quel type de résultats on va obtenir et pourquoi ces résultats se sont déroulés. J'ai une audience où mes clients ont toujours peur d'investir. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je n'ai pas la business que je voudrais. La récession est en train de... la récession ralentit les ventes. C'est la raison pour laquelle, genre, en ce moment, ça va lentement. Fait que, tu sais, c'est insidieux parce que ça a l'air de fait, hein? Ça a l'air vrai, quand on se le dit comme ça. Mais quand on y réfléchit, on voit qu'on a laissé à quelque chose d'autre, une circonstance, un passé ou des choses comme ça, le pouvoir, dans le fond, sur nos circonstances présentes. Et ça, c'est très, très dangereux parce que ça nous enlève l'autorité du présent, l'autorité sur la décision présente. Puis une chose qui est intéressante aussi, fait que c'est important ici là, de se rappeler que, ou de se poser la question du moins, à savoir, c'est qui que je rends responsable pour mon succès actuel, mon bonheur actuel ou mon absence de bonheur et la valeur que je me donne. Puis juste s'asseoir avec cette question, hein, qui je rends responsable de ça? C'est un gros face-à-face qu'on a avec nous-mêmes, puis encore une fois, tu sais, c'est facile, genre, on va le faire parce que c'est tellement plus facile de suivre ce que les autres vont nous dire que de prendre nos propres décisions, parce qu'avec nos propres décisions, avec notre propre autorité puis notre leadership, on doit prendre 100% des résultats sur nous. Et ça, ben tu sais, jusqu'à ce qu'on ait l'ancrage de caractère et l'ancrage de positionnement et comme la capacité de gérer notre système nerveux à travers tout ça, ça va toujours être challengeant, puis on va toujours vouloir laisser ça à l'autorité de quelqu'un d'autre. Puis tu sais, là, on parle de l'autorité dans tous les domaines, hein, tu sais, laisser les autres, tu sais, puis là, ça implique vraiment tout genre dans laisser les autres décider pour nous. Puis c'est pour ça que les gens qui sont dans Money Brand avec moi vont le savoir, puis c'est frustrant parce que des fois, je suis comme... Je vois qu'on essaie de me donner une autorité sur, ou un jugement sur quelque chose et je dois toujours le refléter à la personne qui me pose la question. même dans des questions, c'est comme, je leur pose souvent la question, est-ce que tu me demandes une permission, une prescription, une perspective? Parce que là, en ce moment, t'es en train, genre, de me donner l'autorité sur ta vie. Et moi, je l'ai jamais demandé, cette autorité-là. Moi, je suis là pour te refléter ta propre autorité, ta propre sagesse, ta propre connaissance, ton propre leadership. Mais pour ça, il faut sortir de cette espèce de transfert de pouvoir constant. C'est comme, dis-moi quoi faire, dis-moi comment le faire, dis-moi si c'est correct ce que j'ai fait, dis-moi, confirme-moi, montre-moi la voie, etc., etc., pour finalement dire, ben si ça marche pas, c'était pas moi. C'était quelque chose d'autre, c'était quelqu'un d'autre. Puis une chose qui est intéressante aussi, c'est à quel point on externalise ce pouvoir-là, parfois même à notre moi futur. Hein? Dans le sens, je vais pas faire ça, par exemple, parce que je pourrais pas le faire de façon parfaite. Parce que je vais être occupée dans 6 mois, puis je vais avoir une job à temps plein, puis je pourrais pas venir à tous les appels, puis je pourrais pas faire le travail de la façon que je voudrais le faire à 100%. Donc mon moi futur, là, parce qu'il ne pourra pas être parfait dans ces conditions-là, préfère ne pas prendre la décision en date d'aujourd'hui. Puis ça, encore une fois, c'est super insidieux parce qu'on a l'impression d'être très « empowered » dans cette décision-là, mais encore une fois, on prend une décision par rapport à quelque chose qui est, un, hypothétique et externe à nous, et on s'empêche de prendre la décision en date d'aujourd'hui et d'assumer les conséquences et les résultats à 100%. Bon. Je vous ai parlé de permission, prescription, perspective. C'était une publication que j'avais faite sur mon Instagram aussi. Je vais peut-être vous mettre le lien ici. Mais c'est important à garder en compte parce que, surtout si vous êtes dans des relations de coaching, vous êtes même, si vous allez chercher des formations, des choses comme ça, par exemple, tu sais, oui, vous pouvez aller chercher des formations pour savoir, tu sais, je sais pas moi, comment coder un truc sur votre site, t'sais, c'est vraiment un how-to, mais de savoir où vous allez chercher ces manuels-là, t'sais. Est-ce que vous allez les chercher à comment est-ce que je fais pour être heureuse dans ma vie, comment est-ce que je fais pour, t'sais, des choses que, ultimement, vous allez devoir trouver par vous-même, et vous pouvez le faire avec de l'accompagnement, mais de savoir que cet accompagnement-là ne prendra jamais la place de votre autorité. Parce que c'est la job de personne de nous rendre heureux, c'est la job de personne de nous rendre successful, hein, où personne n'est responsable de notre succès. Et le moment où on accepte pleinement cette autorité-là, c'est là que là, on commence à prendre vraiment des décisions autonomes, courageuses, intègres, parce que sans ce changement de mindset-là, on reste toujours prisonnière de nos cycles traumatiques, notre besoin de validation et... puis je veux pas dire que c'est de la paresse, c'est vraiment comme quand on externalise le pouvoir, mais c'est vraiment cette notion de préférer de se faire prendre en charge plutôt que de prendre en charge notre propre vie. Puis ultimement, puis là, quand je parle de vie, hein, je parle d'entreprise aussi, c'est la même chose pour moi, genre on est sur les mêmes plans. Quand on décide de devenir le centre des décisions, le centre de ce qui va se passer par la suite et d'accepter l'imperfection de ce qui s'en vient et qu'on avance quand même, là vraiment on prend en charge notre leadership et là vraiment on devient une autorité de marque. Puis là, je vais vous envoyer vers le... Si vous voulez continuer cette réflexion, il y avait l'épisode que j'ai enregistré il n'y a pas longtemps sur les décisions optimales, hein, parce que ça fait partie de cette même conversation-là, d'extérioriser à une décision le pouvoir de nous faire sentir d'une façon ou d'une autre, ou d'extérioriser aux circonstances, de dire, ben si les circonstances ne sont pas parfaites, je ne peux pas avancer, je ne peux pas faire cela, ou ceci ou cela. Et là, on laisse à un futur hypothétique le choix de décider pour nous de ce qu'on va faire dans notre vie. All right! Encore un bel épisode dense. J'ai hâte de voir ce que vous allez ressortir de cette conversation. Comment le terme « autorité » résonne pour vous? Et surtout cette question, hein, à qui vous donnez l'autorité en ce moment, que ce soit en termes de je sais pas moi, décider là où vous devriez être aujourd'hui, ce que vous pouvez vous autoriser de faire parce que vous êtes trop nouvel entrepreneur ou vous êtes pas nouvelle pantoute, puis là, vous pouvez pas faire... Tu sais, comment est-ce que ça influence votre prise de décision? Où vous allez chercher cette validation externe-là, ce people-pleasing, où vous allez parler à ce people-pleasing-là pour différer votre autorité? Parce que ça, c'est le travail qu'il faut faire. Et c'est probablement le plus difficile et le plus utile que vous allez pouvoir faire dans votre entreprise et dans votre vie at large. All right, je vous laisse là-dessus. Et si vous voulez ouvrir la conversation, comme d'habitude, envoyez-moi un message, mettez-moi un commentaire sous cet épisode et parlons d'autorité, devenons des autorités. Bonne journée, là! Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'expert et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si t'es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité ». Pour envoyer ta candidature, c'est facile, rends-toi sur aimetamarque.com/moneybrand. Je répète, aimetamarque.com/moneybrand.